Bonjour à tous et merci d'être de notre dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. Le gouvernement de la RDC a publié la semaine dernière le rapport d'évaluation et de contrôle de l'opération Likofi contre les bandits urbains appelés Kuluna. Le vice-premier ministre, ministre chargé de l'Intérieur, Évariste Boshab, a qualifié de folle rumeur les rapports d'ONG faisant état d'au moins 51 jeunes tués sommairement et 30 disparus. Certains observateurs estiment que ce rapport est rendu public tard et peut, aussi faire l'objet de controverses. Une autre opinion pense plutôt que le temps pris par le gouvernement pour contre-vérifier ce rapport par trois autres services était nécessaire. Quel est alors votre avis ? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Jean-Philippe Zabongonda est au standard. Pierre Lamégi à la réalisation de ce programme, Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde, Jérôme Gembo est à la coordination et à la présentation de cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Jérôme Gembo.
Alain Boulogian, vous êtes à Kinshasa, vous nous avez rejoint. Bonjour Alain.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Dans votre message, vous avez dit que le problème aujourd'hui, ce n'est pas, par la police, d'utiliser le glaive, mais plutôt d'une analyse profonde qui intègre tous les facteurs favorisant ces phénomènes. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bon, moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent que le problème Kuluna ou le phénomène Kuluna doit être résolu en tenant compte de plusieurs paramètres. Et parmi ces paramètres, il y a la pauvreté, il y a le manque d'activité pour la jeunesse, il y a le manque d'encadrement. Et nous devons savoir que les parents, tout en gardant leur pouvoir sur les enfants, ont perdu l'autorité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de désarticulation même de la famille, et ce qui favorise dans une large mesure ces phénomènes de Kuluna. Je me souviendrai que vers les années 81, entre 81 et 83, lorsque nous avons connu les pillages, nous avons constaté que les familles qui habitaient Mombele, qui habitaient la commune de Limété, qui est censée être une commune industrielle, n'avaient plus d'emploi. Et c'est comme ça que nous avons commencé à observer ces phénomènes de Kuluna, passant par Yolo, Kapela et tout ça. Et aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Bien que l'action ou l'initiative du gouvernement, passant par la police, a apporté certaines solutions, mais malheureusement, ces solutions ne sont pas durables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous constatons que le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Tout simplement parce que la solution que nous avons tenté d'apporter n'a pas touché les autres facteurs qui favorisent ces phénomènes. Nous devons faire un effort d'intégrer l'encadrement des jeunes dans la solution. Parce que si on laisse seulement l'attitude à la police, eh bien nous risquons d'avoir... C'est une manière de mon point de vue, c'est une manière de s'attaquer
aux jeunes. Oui, Alain, parce que nous devons rester dans la thématique. Vous êtes sans ignorer qu'en octobre, si ma mémoire est très bonne, 2014, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme avait publié un rapport sur les exactions de la police congolaise par rapport à cette opération. Et l'ONU avait même relevé 9 exécutions sommaires et 32 disparitions pendant les 3 mois de l'opération. Et quelques temps plus tard, c'est Human Rights Watch qui est revenu à la charge avec un autre rapport très circonstancé de 63 pages sur la même opération où on a parlé de 51 jeunes hommes et garçons qui ont été sommairement tués pendant cette campagne. Alors aujourd'hui, nous avons le rapport du gouvernement congolais qui vient d'être publié. On a l'impression que finalement, ce sont les trois rapports sont contradictoires.
Effectivement, parce que les trois rapports n'ont pas le même source. Parce que généralement, les institutions internationales, les organisations internationales, les défenseurs des droits de l'homme, se fient aux rapports des organes ou des ONG au niveau interne. Et malheureusement, pour des raisons de financement, il y a des problèmes d'informations qui sont données par complaisance, qui ne tiennent pas compte des réalités sur le terrain. C'est vrai que le gouvernement a aussi des raisons à ne pas donner la vraie version ou la vérité telle que vécue par la population pour des raisons de préserver son image de marque. Mais malheureusement, nous autres qui avons circulé pendant ces temps, on avait constaté qu'il y avait quand même des déviations. Quand même, nous ne pouvons pas confirmer qu'effectivement il y a eu autant de morts, mais au moins nous avons vu, et passons de ce que nous avons eu à observer pendant ces temps, qu'il y avait quand même une certaine déviation de la part de la police. Ce qui est important, c'est qu'il revient au gouvernement de sécuriser les uns et les autres. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas soutenir le phénomène Kuluna. Nous devons aussi savoir que parmi les facteurs qui favorisent que ces phénomènes puissent avoir de l'ampleur, il y a notamment la pauvreté. Donc si on doit éviter à ce que nous arrivions à avoir ces genres d'actes, ces genres de déviations, et bien nous devons attaquer le phénomène dans sa racine. La racine, c'est premièrement d'abord la pauvreté. Donc on doit combattre la pauvreté, on doit mettre les jeunes en activité pour que nous puissions réduire temps à temps ces phénomènes et permettre à ce que notre pays ne soit plus taxé de tout et de rien par ces institutions internationales.
Alors, en lisant ces rapports, nous avons eu l'impression que l'inspection générale note également qu'il y a eu effectivement une mauvaise compréhension de la mission par certains agents de la police et aussi l'absence de briefing au plus bas échelon. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire?
Ça nous assure que quelque part, il y a un problème de coordination. Parce qu'en principe, l'autorité ne peut pas dire ça. Au-delà de donner des injonctions au cadre subalterne, mais en principe, on devait faire le suivi. Si on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas eu des déviations, on n'a pas bien cerné la mission, donc quelque part, la mission n'a pas été claire. Alors, nous devons savoir que nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, on doit respecter les normes, on doit respecter la loi. Il est dit dans notre constitution que la vie est sacrée. C'est-à-dire qu'on doit préserver la vie. Mais lorsqu'il y a des déviations, on doit sentir qu'effectivement il y a des déviations, mais on devait sentir aussi qu'il y a des têtes qui allaient tomber. Parce que celui qui a estimé l'ordre, de lors que son ordre n'a pas été bien compris, donc en principe, lui aussi devait être sanctionné. Mais malheureusement, on n'a pas vu ça, on n'a pas senti cette volonté à faire respecter la loi et ce qui nous donne l'impression, quelque part, c'est comme s'il y a une faiblesse au niveau du commandement de la police. Et aujourd'hui, on doit chercher des victimes, pas seulement au niveau de ceux qui ont exécuté, mais même aussi au niveau de ceux qui ont intimé l'ordre.
Merci beaucoup, Alain, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous restons toujours à Kinshasa avec Maître Joël. Maître Joël, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour Radio Cathy, bonjour à tous les auditeurs.
Alors pour vous, les droits de l'homme jouent toujours contre l'État qui, dans la plupart des cas, cherche toujours à en réduire les champs d'application. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là?
Oui, je veux dire par là que l'État cherche toujours à rétrécir les champs d'application des libertés publiques. Vous allez voir que le nombre des droits de l'homme reconnus dans la Constitution que nous appelons liberté publique est vraiment minime par rapport à l'ensemble des droits les plus fondamentaux de l'homme reconnus dans les instruments juridiques internationaux. Alors, c'est ce qui fait que nous n'avons comme contrepoids à l'État que les ONG qui, dans ce qu'elles font, n'ont rien ou n'ont aucun intérêt à chercher à salir l'image du gouvernement ou de ses services qui, dans leur mission, commettent toujours des dérapages qui occasionnent la violation des droits de l'homme. si vous lisez notre constitution, précisément dans ses articles 16 à 61, et aussi l'article 215, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de droits de l'homme garantis à tout individu, même aux Congolais les plus cruels, que nous appelons ici Kuluna, et qu'il y a des mécanismes établis par l'État pour lutter contre la criminalité. S'il y a une opération comme l'ICOFI par exemple, cette opération doit normalement aboutir à l'arrestation de ces Kuluna, les transférer à l'autorité judiciaire, donc les parquets qui doivent réunir les éléments de preuve et puis donner au juge le temps de faire son service. Si culpabilité il y a, les condamner, et qu'il y a même une manière de l'exécution de ces condamnations. Donc il n'appartient pas à la police lors d'une opération d'arrêter les Kuluna, de les exécuter en violation des droits les plus fondamentaux garantis à tout individu, quoi qu'il arrive à violer la loi.
Alors, Maître Joël, certains observateurs estiment que ces rapports rendus publics par le gouvernement congolais viennent tardivement et peut aussi faire l'objet de controverses, hein, comme c'était le cas aussi avec le rapport des droits de l'homme de l'ONU et aussi celui de Human Rights Watch.
Oui, généralement, les rapports du gouvernement viennent toujours en retard après ceux des ONG parce qu'il y a une mauvaise foi de la part du gouvernement parce que ces rapports ne viennent pas pour chercher à éclairer ou à établir la vérité, mais juste pour chercher à soigner l'image de ces services. Donc, c'est un montage. Alors, le gouvernement ne peut pas faire ce montage avant que les ONG puissent d'abord publier les rapports. Ils attendent d'abord les rapports des ONG et puis ils vont se mettre tout autour de chercher quel sera leur rapport pour contredire par mauvaise foi, comme je l'ai dit, les rapports des ONG. Aucun gouvernement du monde et surtout en Afrique ne peut accepter qu'il y ait exactement violation des droits de l'homme.
Merci beaucoup, Maître Joël, d'avoir appelé. Patrick, vous êtes en Bandaka. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour à tout le monde.
Quel est votre avis, Patrick?
Par rapport à ce sujet, à notre avis, nous disons que avant d'essayer de voir de quoi faire suite à ce problème, le gouvernement doit savoir qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène. Et de notre part, nous supposons que ce qui est à la base de ce problème, c'est un problème lié à la famille. Quand les jeunes se sentent affamés, ils cherchent des voies de moyens pour trouver de quoi ils doivent manger. Alors, on ne peut pas parler du terrorisme dans un pays pauvre comme la RD Congo. C'est au moins dans le pays développé, puisque la croissance et les taux de croissance du terrorisme est fonction croissante du niveau de développement des pays. Alors, un pays pauvre comme la RDC, on ne peut pas parler du terrorisme, néanmoins, ce phénomène social qui est pour Luna est dû à la famille. Alors, pour éradiquer ce problème, ce n'est pas du tuer les gens, violer les droits de l'homme, mais néanmoins, instaurer une politique d'engager les jeunes. Quand les jeunes seront embauchés, ils vont trouver des voies, se procurer, en fait, n'est-ce pas, de survenir à leurs besoins. Mais au lieu de passer par l'opération du consort, moi je trouve ça sympa bien, néanmoins, mener une politique puisque.
Patrick, quel est le regard que vous avez par rapport à tous ces rapports, qu'il s'agisse du rapport de droits de l'homme de l'ONU, qui c'est lui de Human Rights, et finalement, c'est lui qui vient à peine de sortir du gouvernement congolais.
En fait, par rapport à tout ça, nous supposons que tous ces rapports ne font pas partie de la réalité ou de quoi le gouvernement doit faire afin d'éradiquer ce problème. Puisque normalement, la meilleure solution de notre côté, c'est d'appliquer seulement cette politique, puisque dès que les jeunes seront engagés, je pense que le problème sera résolu. Ensuite, Les taux de colonisme, c'est dû aussi à la croissance démographique. Quand la démographie évolue plus vite et que cette démographie n'est pas totalement bien entretenue et que cette démographie n'est pas bien instruite, cette démographie peut apporter des problèmes sociaux culturelles, économiques et voire même politiques dans un pays. Et ces problèmes peuvent causer des préjudices à toute une nation.
Merci beaucoup, Patrick. Comme Alain Bonnejoie qui évoquait des facteurs favorisant ces phénomènes, il a même évoqué le cas de deux pillages. Il a parlé de 81, 83, c'était juste à la Suisse. Il voulait plutôt parler du pillage de 91 à 93. Voilà, nous allons retrouver notre invité, Monsieur Robert Ilunga, de l'ONG Ami de Nelson Mandela, dans un instant, 081-890-75, pour votre intervention directe.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, paroles aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
Voilà, nous avons en ligne Monsieur Robert Ilunga, l'ONG ami de Nelson Mandela. Monsieur Robert, bonjour.
Bonjour Monsieur Jumal.
Voilà, vous avez appris comme nous qu'il y a un rapport publié par le gouvernement congolais sur l'opération Likofi. Quelle est votre réaction?
Bon, notre réaction, je crois que aujourd'hui les auditeurs seront éclairés. Je vais essayer d'enlever le flou autour des différents rapports qui ont été cités. Premièrement, une précision que je voulais apporter, c'est le fait que on parle de trois rapports. Des rapports de Manuel Choch, du BFNDH et de la MONUSCO et du gouvernement. Et on oublie que nous étions, les amis de Nelson Mandela, a été l'ONG qui a commencé à suivre l'opération du COFI de son débit et jusqu'à ce que nous sommes parvenus avoir des contradictions avec les membres du gouvernement. C'est quoi effectivement, messieurs les journalistes? Quand l'opération a commencé, nous avons commencé à documenter déjà par les premiers actes de torture, d'exécution extrajudiciaire que nous avons vu. Nous nous sommes dit, ça, il faut déjà jouer au système d'alerte. On avait alerté les autorités, on a fait toute une liste là, en compagnie de certaines personnalités du pays que je ne vais pas citer. Nous avons établi toute une liste, la liste parce que je vous parle de la liste parce que il y a une allusion qui a été faite par les rapports de la police qu'ils n'avaient pas la liste des enfants disparus, exécutés, ainsi de suite. Nous, on était les premiers à faire sortir les rapports au mois de février 2014. Le deuxième rapport, c'était au mois de juillet 2014. Les autorités en ont, le BCNDH a les rapports, ou Menora Church, en tant que partenaire, a aussi les rapports. Nous avons travaillé de manière séparée. Nous avons mené une action d'investigation en tant qu'amis de Nelson Mandela. Les bureaux conjoints des Nations Unies ont mené ses enquêtes de sa façon, comme ou Menora Church. Mais ce qui nous réjouit, c'est le fait que, à la fin, quand les trois rapports sont sortis, nous nous référons presque aux mêmes victimes. Nous avons toute une liste de victimes que nous avons citées. Maintenant, ce qui est quoi? Parce que le gouvernement sait que nous avons produit des rapports. Mais il n'en parle pas. Pourquoi? Les membres du gouvernement n'en parlent pas. Même le ministre, je crois que dans ce bureau, il a les différents rapports, les deux rapports que nous avons publiés, même trois ou quatre, sur l'opération du COFI. Et il verra qu'il y a la liste. Nous avons même été reprochés autour de ça. On a mis des photos, les adresses, et ce qui a été fait par la police, contrairement aux normes requises pour réprimer les brigands ou les criminels. Alors, ces rapports-là, nous trouvons que les membres du gouvernement, quand il y a un rapport publié par une ONG locale, ils minimisent, ils négligent. Mais quand c'est le même rapport, les mêmes éléments qui sont publiés par une ONG internationale, ils réagissent avec vigueur. Alors, on ne comprend pas c'est quoi effectivement.
Oui, pour le gouvernement, en tout cas pour le vice-premier ministre chargé de l'intérieur, il fallait plutôt avoir le temps suffisant pour contre-vérifier ces rapports par trois autres services. Lui, il a estimé que c'était quand même hyper nécessaire.
Oui, c'était nécessaire, bien sûr, parce que nous l'avons fait. Nous, quand nous menons les actions, avant que nous puissions parvenir à dénoncer, nous voyons. Nous commençons d'abord par voir rencontrer la victime. Après la victime, nous rencontrons le présumé auteur de l'acte. Posez la question au général Kanyama, nous ne l'avons pas rencontré, nous l'avons rencontré. Bisenimana Oleko, nous ne l'avons pas rencontré, nous l'avons rencontré. Et voir même le ministre Mouyej, il nous a rencontré les jours qu'il a présenté des fausses victimes, des enfants pris à la prison pour venir les comparer à des photos que nous avons publiées dans nos rapports. Il ne concordait même pas. Ces jours-là, avant que vous puissiez être reçu par les ministres, nous étions d'abord dans une réunion où nous lui avons montré noir sur blanc que ce comportement pour un gouvernement, un État, ce n'est pas bon. Ça peut devenir grave un jour. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu grave. On commence à présenter les rapports pour se dédouaner.
Alors,
ça, nous considérons les rapports présentés par
les ministres. Voilà, je crois que le rapport est déjà là. Je crois que vous avez également lu les rapports du gouvernement. Quelque part, il est dit, en fait, le gouvernement reconnaît l'absence de briefing au plus bas échelon, c'est-à-dire on évoque là une mauvaise compréhension de la mission par certains agents.
Non, certains agents, bien sûr, qui ont été punis. On nous présente la liste des personnes qui ont été condamnées, sanctionnées. Mais nous, est-ce que vous avez déjà été invité un jour à assister à un procès parmi les personnes que nous avons dénoncées dans notre église? Bien sûr, il y a des Kounouna qui ont été arrêtés, qu'on a jugé, que nous avons vu. Mais nous, ce ne sont pas ces Kounouna-là, parce que nous sommes contre les Kounouna. Nous sommes contre tout Kounouna, qu'il soit des blancs, qu'il soit noir. Nous sommes contre les Kounouna. Mais les Kounouna, les personnes, les enfants d'autrui qu'on a enlevés, qui sont disparus jusqu'à aujourd'hui, qu'on a exécutés devant leurs membres de famille, dont nous avons présenté des photos. Où se trouveraient les dossiers jusqu'à aujourd'hui, où se trouvent ces enfants-là jusqu'à aujourd'hui? C'est ce que nous demandons. Voilà. On ne fait pas allusion à tous les autres Kounouna qu'on a arrêtés, qu'on a présentés. Parmi la liste, et si vous avez présenté les noms des personnes, la liste, moi j'ai eu des rapports présentés par l'inspection générale de la police, l'inspection aussi s'est plainte pour voir que même la personne qui était chargée pour mener cette opération n'a pas respecté les consignes qu'on lui a données.
Merci.
Il avait présenté des rapports hebdomadairement, il ne les faisait pas.
Alors, Robert, nous vous gardons en ligne, le temps de répartir de notre côté du standard. Il y a vraiment des auditeurs qui nous ont rejoints et les combinés n'arrêtent pas de sonner. Vraiment, c'est vraiment près de d'exploser. Amos, vous êtes à Bukavu, Maître Omar à Kinshasa. Amos, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, JR, bonjour au peuple congolais qui nous suit, bonjour à l'invité avec ses analyses combien pertinentes. Ma première préoccupation est de savoir si notre gouvernement a un jour eu le temps de se poser la question pourquoi de Kounouna à Kinshasa et partout à travers la République aujourd'hui. Moi, je pense que mon prédécesseur, il y a un problème grave au Congo. Le problème de chômage, le manque d'emploi surtout aux jeunes. J'ai toujours dit que c'est inacceptable de rencontrer des licenciés qui sont devenus des motards, des licenciés qui sont des sentinelles partout à travers la République à cause de la mauvaise gouvernance du pouvoir en place aujourd'hui au pays. Moi, je me dis au fait par rapport à tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Et à votre, les retards qu'a connu ce rapport. On peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi ce rapport a connu 3 ans pour que le gouvernement parvienne à le faire sortir? Est-ce qu'on peut parler qu'il y a eu incompétence du gouvernement? Et là, je vois plus particulièrement le ministère de l'Intérieur, où c'était une stratégie du gouvernement pour faire des tâches de ce rapport. Ce sont les questions que beaucoup de gens peuvent se poser. Toutefois, hier, vous allez comprendre avec les auditeurs que tout rapport qui parle de graves violations des droits de l'homme en RDC, le pouvoir en place les qualifie de faux rumeurs. Ou de montage ou de mascarade. Parce que j'ai donné à titre d'exemple le rapport qui concerne les violations sexuelles faites aux femmes à plus démocratique du Congo, et plus particulièrement à l'Est. Souvent le gouvernement dit que non, les ONG manipulent les chiffres pour trouver du financement. Mais la grande question qu'on se pose, même une seule femme violée, c'est déjà trop pour un gouvernement responsable. Et une autre question qu'on peut se poser, quel est le rapport qu'a déjà produit notre gouvernement contredisant le rapport que produit souvent les ONG pour ce qui est des violations des sexuelles des femmes? À part ça, on a parlé de massacre de Ben dernièrement. Est-ce que vous allez comprendre avec moi, JR, que moi-même je suis à la RTLC, les journalistes tentaient de dire que non, on a fait des montagnes de photos de nos compatriotes qui ont été massacrés à Ben. C'est vraiment une injure pour le peuple congolais. Je me suis posé la question, est-ce que vraiment il n'y a pas eu massacre à Ben comme notre gouvernement a Dijon, il y a même des photos du Nigeria qu'on a amené au Congo, il y a des photos du Burkina Faso, des photos du Rwanda, pour vous montrer que notre gouvernement n'accepte pas tout ce qu'on produit comme violation des droits de l'homme en RDC. À part ça, il y a aussi la répression et le menace à l'égard des opposants, mais aussi les membres de la société civile. Souvent, quand il y a des activités organisées par l'opposition ou la société civile, il y a des violations graves. Mais notre gouvernement, et là je vois plus particulièrement, le ministre Lambert Mende n'accepte jamais que non, il y a une violation des droits de l'homme par rapport à ça.
Oui, Amos, il y a, oui. il y a le rapport de BSN UDH et puis le rapport de Human Rights. En tout cas, c'est là ce que venait de dire tout à l'heure M. Robert Ilunga, des amis de Nelson Mandela, où on a évoqué pratiquement 33 cas de disparus. Mais les rapports du gouvernement parlent plutôt, en tout cas l'inspection parle de 18 cas rapportés, dont 2 après enquête s'avèrent être des exécutions sommaires. Les 16 autres sont toujours portés disparus. Donc, ce sont des cas disparus.
Vous venez de suivre l'invité au studio. Tout ce qu'il vient d'expliquer au peuple congolais prouve à suffisance que derrière les rapports du gouvernement, il y a des montages. Il y a un agenda caché. Le gouvernement ne veut pas démontrer ses faiblesses. Pourquoi pas pour tous les abus qu'il a toujours commis à l'égard de la population congolaise. Vous allez comprendre hier, partout à travers la République aujourd'hui, les policiers commettent beaucoup d'abus à l'égard de la population. Je prends l'exemple de nous qui sommes à Bukavu. Il faut arriver à Nyawera. Voir ce que les policiers font à l'égard des motards, à l'égard des taximens, à l'égard des mamans vendeuses. Les policiers tracassent la population et même si nous qui sommes des attributs des droits de l'homme, nous donnons tous ces rapports, nous présentons tous ces rapports auprès de l'autorité de la province ou auprès de l'autorité de la ville, ils n'acceptent jamais et ils défendent souvent les policiers au moment où c'est la population qui est victime de tous ces abus de la police. Pour dire que notre gouvernement ne peut jamais accepter tous les abus qui se commettent en République démocratique du Congo, surtout les violations des droits de l'homme. Là où le gouvernement ne parvient pas à accepter ce qui a été démontré noir sur blanc. Vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. Gilles? Moi, je pense que le peuple congolais doit accepter les rapports qui ont été produits par les ONG. Et je pense bien que ces différentes autorités de la République démocratique du Congo qui n'acceptent pas les graves violations, elles doivent comprendre que tôt ou tard, elles finiront par être rattrapées par l'histoire.
Merci.
On ne peut pas se passer comme ça, du fait que le peuple congolais.
Merci beaucoup d'avoir appelé. Voilà, donc pour vous, c'est vrai, bon, il y a 3 rapports, ou plus de 3 même, qui sont en contradiction à ce jour, mais une chose est vraie qu'à un certain moment, on reconnaît qu'il y a effectivement des cas de disparus, il y a de l'autre côté des cas de violation des consignes, et le gouvernement, par l'entremise du ministère de l'Intérieur et le biais de la police, de l'inspection de la police, parle de l'absence de briefing au plus bas échelon suite à la mauvaise compréhension de la mission par les agents. Voilà donc autant de problèmes dans ces rapports. Monsieur Robert est là, nous allons poursuivre avec lui, mais entre temps, Maître Omar, vous êtes avec nous à Kinshasa, vous gardez la ligne. Monsieur Robert, vous avez suivi, Amos, tout à l'heure. Quelle est votre réaction?
Bon, ma réaction, il a raison d'évoquer tout ça, et d'abord, une précision, il n'y a pas quatre rapports qui sont en contradiction. Il y a 3 rapports qui sont complexes. Les rapports de Nelson Mandela, les rapports de BCIDH et les rapports de Menaraj. Les 3 rapports, c'est complexe, ça ne se contredit pas. C'est les rapports du gouvernement qui veulent contredire les vrais rapports. Moi, je présenterai les rapports du gouvernement comme étant un faux, qui est mal présenté, par le fait que tous les éléments, avant qu'ils puissent présenter les rapports, ils en ont. Tous les éléments. Vraiment, excusez-moi que je puisse utiliser, c'est comme s'il y avait de la mauvaise foi là-dedans. On veut cacher quelque chose, c'est dit l'auditeur tout de suite ici. C'est qu'il y a un agenda caché, mais nous on a compris. Parmi les violations que nous avons évoquées, nous avons cité les exécutions extrajudiciaires, les tortures, les disparitions forcées, les enlèvements. Ce sont des cas qui peuvent amener certaines autorités à des instances judiciaires internationales. Alors c'est le moment qu'il faut chercher à se débarrasser, de se dédouaner, se justifier. Pour dire que vous avez produit un rapport. Un rapport produit après 3 ans. Ce n'est pas correct.
Alors Robert, dans les jours à venir, peut-être le gouvernement pourrait relancer encore cette opération pour sécuriser la ville, protéger les civils, la population notamment. Alors, vous proposerez quoi concrètement pour que, finalement, ces genres de bévues ou d'incidents ne se reproduisent plus?
D'abord, avant même de procéder à l'opération, il faut d'abord changer certains comportements. C'est quoi effectivement? Le comportement qu'il faut changer, c'est le fait de ne pas se servir des voyous dans les partis politiques. Ça, c'est le premier élément. Ne pas se servir des voyous, entre guillemets, dans les partis politiques. Vous verrez que, actuellement, les partis politiques cherchent à recruter, pas les jeunes intellectuels seulement, et plus les jeunes musclés pour se préparer à des affrontements. Ça, ce n'est pas correct. Alors, parce qu'on finira toujours par former les jeunes, après, si vous vous en servez avec ces jeunes-là, quand vous avez gain de cause, vous les rejetez, ils deviennent des bandits, ils commencent à se suivre par-ci, par-là. Et ce que nous proposons, qu'à la prochaine opération du COFI, je suis sûr et je rassure que ça sera propre. Cette fois-ci, ils vont suivre les normes, ils vont nous écouter, parce que les rapports, c'est vraiment aussi une pédagogie pour les gens qu'on va envoyer pour la prochaine opération. Parce que la prochaine opération, si on veut que vous puisse la mener correctement, il faut qu'on laisse chaque institution faire son travail. La police fait son travail correctement.
Oui, parce que le gouvernement a décidé cette fois-ci, si jamais il y aura cette opération, de travailler dans un panel avec les ONG et aussi, disons, activer ces mécanismes de monitoring de manière permanente.
Mais on ne saura pas faire un même rapport avec le gouvernement. Disons, on peut être sur le terrain et font les rapports, les instances judiciaires font les enquêtes, ce qu'on appelle les enquêtes judiciaires. Nous faisons les enquêtes des droits de l'homme, la police fait les enquêtes policières, ainsi de suite, et on verra si nous sommes vraiment corrects avec nous, on aura à présenter des rapports s'il n'y aura pas de contradictions, parce que ce sont des faits vécus sur le terrain, ce sont des éléments récoltés réels. Mais si nous rentrons pour entrer dans les laboratoires pour commencer à monter, à faire des montages, des images, à faire des montages des situations, là, on sera toujours dans la
position. Oui, est-ce que vous n'estimez pas comme les autres que à chaque fois que les ONG documentent ou font des rapports, ça décourage quand même les actions du gouvernement qui font du reste salutaire, et surtout quand il faut sécuriser et protéger la population. Parce qu'à longueur de journée, nous remarquons qu'il y a un taux de banditisme qui s'élève, et aussi des cas de récurrence, notamment dans le banditisme urbain.
Oui, bien sûr. Nous fustigeons le comportement des part et d'autres. Nous avons dit, je vous révèle encore une chose, nous sommes parmi les premières organisations en 2005 qui avaient dénoncé, qui avaient alerté des membres du gouvernement que le phénomène Ekiri est une bombe à retardement, attention. Parce que nous voyons bien qu'il y avait des phénomènes Ekiri avec l'impunité qui était là, tout simplement parce que si on s'attaque à ces jeunes, on va perdre l'électorat. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Et deuxième, alors, le comportement de ces jeunes-là, s'ils ne sont pas, les jeunes se comportent en dehors de la loi, ils doivent être sanctionnés conformément aux normes. La même chose aussi, quand on mène une opération, l'opération du COFI, nous ne sommes pas contre avec l'opération du COFI. Même l'opération du COFI que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui, on n'était pas contre l'opération du COFI, on a salué, on a applaudi l'opération du COFI, mais la manière dont le dérapage, la manière dont on s'est comporté à travers cette opération du COFI, on est devenu les seigneurs de tout faire. Là, ce n'est pas correct. Dans un pays, il faut dénoncer à temps, de sorte que ça ne puisse pas se répéter. Nous sommes sûrs que prochainement, dans les prochaines opérations, ça ne va plus se
répéter. Alors, on va écouter les autres auditeurs qui nous ont rejoints. Maître Omar, vous êtes à Kinshasa, Jules à Songololo dans le Congo central. Maître Omar, bonjour.
Bonjour, Jean Longembo, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
Quel est votre avis?
Merci beaucoup, J.R. Nous l'avons toujours dit, l'état des droits, c'est aussi le respect et la promotion des droits de l'homme. Nous sommes d'accord. Mais je pense que j'y ai même votre invité, personne d'autre ne peut ignorer ce que les colons ont fait au Congo comme massacre. Ce que moi je fustige au niveau du rapport, c'est mon premier point. D'abord au niveau des ONG, je suis d'accord qu'il y a eu des dérapages. Mais ce que je dénonce, c'est le manque de preuves ou le manque de véracité dans leurs propos. On a comme l'impression que les ONG transforment leurs rapports en des demandes financières. Et les JR, il y a des cas qui se passent en Syrie, il y a des cas en France, il y a eu ça à Orlando. Je n'ai jamais vu Man Watch avoir un ton élevé. Mais lorsqu'il s'agit du Congo, on lève le ton pour fustiger les actions tant soit minimes du gouvernement. Lorsque le Kuluna dans ces pays vient chez une femme enceinte, il la tue, ils enlèvent le béquille à l'intérieur. Je n'ai jamais vu Oumane Roy qui ne sont Mandela plus sujet de cela. Mais lorsqu'on se met à les arrêter, à les sanctionner de façon immédiate, on s'élève. Je suis d'accord qu'il faut sanctionner légalement, mais il faut aussi tenir compte des faits que nous vivons. Si monsieur là qui reprend Nelson Mandela est vraiment quelqu'un qui vit avec nous ici, il ne pourrait pas n'être pas festivé ce que l'action gouvernementale a fait. Même dans la Bible, on dit Genèse 9:6, et lui qui tue par l'épée paiera par l'épée. Je n'encourage pas le meurtre, je n'encourage pas qu'on tue, mais il faut tenir compte de la gravité des faits hier. Il y a des bébés de 8 mois qui sont violés par ce jeune. On ne peut pas justifier cela par la pauvreté. Il y a donc fallu qu'on prenne des mesures immédiates. Par rapport au report du gouvernement, moi je pense que le retard se justifie. Il y a eu plusieurs rapports des ONG et il fallait de toute responsabilité mettre en place un rapport. Il faut des études. 3 ans. Il n'y a pas un délai légal prévu. Il ne faut faire que jamais. Cela quand même a été fait. Et M. Guy, il n'y a pas de contradiction. Moi, j'ai tous les 3 rapports. Ils ne se complètent pas. Ils se contredisent. Et lorsque nous fustigeons cela, c'est parce que si vous lisez ces rapports, vous vous rendez compte, on se limite à alléguer des faits. On n'apporte pas des éléments de preuve. On dit seulement 50 ont été tués, 50 ont disparu, 50 ont élevé. En droit, il ne suffit pas d'alléguer des faits, il faut apporter des preuves. Et pour finir, par rapport à la lutte contre les colonnas.
Oui, oui, Maître Omar, vous avez suivi, je ne sais pas si vous avez pris en cours de cette émission, Maître Robert a parlé tout à l'heure des photos, tout a été documenté. Et on l'a présenté au gouvernement, on l'a alerté même bien avant.
Nous n'avons pas vu ça. Il est dit à la télé, à la radio. On n'a vu pas. On n'a pas vu des émissions au moment de télé. On n'a pas vu une famille passer à la télé dire que notre fils a disparu. Ce qui vous dit que si votre fils a disparu. Je ne dis pas que c'est faux hier. Je suis conscient qu'il y a eu des dérapages policiers. Je suis conscient qu'il y a eu des disparitions. Mais on n'a pas pu prouver. Et lorsqu'on tient des rapports pour fustiger le gouvernement congolais, c'est vrai. Et ce gouvernement a aussi des failles. Mais on doit quand même garder l'image du pays. C'est que ces Koulouna font. Je n'ai jamais vu les amis de Nelson Mandela passer à la télé pour dire que les Koulouna ont violé les droits de l'homme. Il n'y a que les policiers qui violent les droits de l'homme. Ces gens-là tuent, pillent sans pitié. Et je voudrais dire par rapport à la lutte hier, comme l'a dit M. Alain Bolonjo, il y a des mesures immédiates, il y a des mesures lointaines. Les mesures immédiates consistent à les arrêter, à les sanctionner, même par l'appel la plus sévère. Il y a aussi des mesures lointaines, comme nous l'avons dit. Il faut améliorer les conditions de vie des Congolais. Parce que, deux fois, les crimes sont aussi dus à la pauvreté. Et deux, il faut encadrer ces jeunes. Lorsqu'un jeune n'est pas encadré, c'est comme un ruisseau où il n'y a pas d'eau. L'eau craint elle-même.
Oui, Maître Omar, il y a un auditeur qui nous a écrit. Je ne sais pas à mon niveau si vous aurez peut-être eu l'interprétation. Parce que, comme vous parlez, vous évoquez comme facteur favorisant ces phénomènes, la pauvreté, le tout dernier cas de sécurité que nous avons observé aux États-Unis, à Orlando, à Dallas ou ailleurs, en France n'en parlons pas, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'effectivement le seul facteur favorisant à l'RDC c'est la pauvreté?
Je ne pense pas dire. Là je voudrais aussi revêtir ma casquette d'un petit criminologue pour dire qu'il n'y a pas que la pauvreté. Il y a aussi le conformisme. Il y a des jeunes qui veulent vivre comme les autres. Mais aussi la toxicomanie. En Afrique du Sud on vit mieux, aux États-Unis on vit mieux. Lorsque les jeunes s'exercent à commettre des crimes, ce n'est pas seulement la pauvreté, ça peut être bien la toxicomanie. Il y a aussi gérer l'injustice. Lorsque dans un pays, dans une société, on voit certaines personnes évoluer et nous on n'évolue pas. Des fois, il y a ce qu'on appelle en criminologie des crimes pseudo-justifiés. Quelqu'un commet les crimes pour établir l'équilibre social. Il y a plusieurs facteurs gérés. À part la pauvreté, il y a les conformismes, il y a les manques d'encadrement au niveau des familles, au niveau des écoles, il y a la toxicomanie, il y a l'alcool. Et lorsqu'on veut vraiment éradiquer ces fléaux qui rongent les tissus sociaux congolais, on doit tenir compte de tous ces facteurs. Mais je déclare hier, ce ne sont que des mesures lointaines, il faut beaucoup d'études. Pour le moment, il faut arrêter ces jeunes, il faut les sanctionner. Et à la longue, il faut faire une grande étude par rapport à toutes ces causes qui sont derrière les gens.
Alors vous souhaiterez que, comme l'a proposé le gouvernement, un panel pour faire le monitoring, si jamais, demain ou après-demain, on relance encore l'opération Les Copies, vous estimez que ça pourrait mettre fin à toutes ces controverses autour des différents rapports sur l'opération?
Merci, J.R. D'ailleurs, le peuple a droit à l'information. Et lorsqu'il y a des contradictions au niveau des rapports, nous sommes perplexes, on ne sait pas à quel point c'est voué. Je souhaiterais, comme vous l'avez dit, que prochainement, d'ailleurs, si vous lisez la loi sur la CNDH, cela est prévu. Il faut que la CNDH, en constant avec un ministère des droits de l'homme, il y a des ONG, qui les fassent ensemble, qui aient un rapport commun. S'il y a des discussions au niveau interne, que cela soit fait, de façon que lorsqu'on va établir un rapport, qu'il n'y ait pas de contradictions. S'il y a des contradictions, on ne sait pas qui dit la vérité, qui trompe, qui a menti, qui a dit la vérité. Je chute par dire que prochainement, messieurs de Nelson Mandela, nous respectons votre travail, Oumane Roy, gouvernement congolais, constituer une équipe ensemble, faire des rapports, faire des enquêtes et donner nous un rapport commun. Et aussi aux jeunes et locales et internationales, éviter de fustiger seulement pour les Congos. On a tué à Beni. Je n'ai pas vu les gens dire je suis béni, ou Manoua qui disait béni. Lorsque c'est à Paris, on s'élève. Lorsque les gens coupent les gens les armes, on dit pas cela. Lorsque le gouvernement va attaquer les gens pour les tuer, on va dire le gouvernement a donné les droits de l'homme. Tout le monde a une part de responsabilité, et les jeunes qui doivent dire la vraie vérité, et les gouvernements qui doivent encadrer les policiers, et la famille, les gouvernements qui doivent bien payer les fonctionnaires, et une étude qui doit être faite par rapport à toutes les causes criminologiques pour éradiquer ces fléaux qui rongent notre pays.
Merci beaucoup, Maître Omar, d'avoir appelé de Kinshasa. Gilles, vous êtes à Songololo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est votre avis?
Bien, je voulais parler un peu des aspects. En RDC, nous avons deux espèces de Kulula. Nous avons des Kulula à Machette, que nous déplorons tout de suite là. Et nous avons aussi des Kulula en cravate. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ce que nous remarquons chez les Kulula à Machette, ce sont des symptômes d'une cause quelconque. Alors, la cause, c'est quoi? La cause, ce sont les causes provoquées par les Kulula en cravate. Alors, moi, j'ai demandé au gouvernement congolais, pas seulement de traquer les Kulula à Machette, mais de traquer aussi les Kulula en cravate, et vous allez voir, parce que ce sont la cause. Les Kulula en cravate, ce sont les agents causales des effets qu'on remarque chez les Kulula à Machette. Lorsque vous ne voulez pas entendre les jeunes, lorsque vous ne voulez pas leur donner du travail, quelqu'un qui a étudié un licencié comme ça, on ne sait pas en quoi, il se fait vendeur des unités quelque part. Il se fait motoriste. Bon, allez qu'ils comprennent. Lorsque vous traquez, il faut arrêter les Kulula, il faut les mettre en prison. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué ici, par exemple, à Somololo, lorsqu'on arrête le voleur à Loufou, deux jours après, vous le voyez. Alors, qui le fait sortir là-bas? N'est-ce pas les gens qui sont censés de les sanctionner? Ce sont des Kulula en cravate qui le fait sortir après deux jours après. Et vous verrez la même personne.
Oui, mais Gilles, une chose est vraie, que certaines familles ne collaborent pas avec la police, avec la justice, pour dénoncer même des actes délictueux que posent leurs enfants. Qui sont concernés dans ces banditismes.
Mais certaines familles ne collaborent pas avec la justice. Ils savent que lorsque leur enfant va aller voler, ils l'amènent à la maison et puis ils mangent. C'est comme ça, moi j'ai dit qu'il faut commencer d'abord à traquer les Kulula en cravate, de mettre des séries à les cravates, de donner quand même, de donner du travail à ceux qui ont étudié, et vous allez avoir qu'il y aura un tel apaisement. Mais lorsque vous traquez les Kulula à Machette, ça ce sont des symptômes. Vous traitez les symptômes et non les causes. Alors,
voilà, merci Gilles. Pour vous, il faut casser ces déséquilibres sociaux qui constituent, selon vous, donc la cause de ces phénomènes. Il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs facteurs favorisants, comme l'ont évoqué même vos prédécesseurs. On va écouter Maître Sauville, qui a appelé de Lubumbashi. Maître Sauville, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles, et bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Sapir.
Est-ce que partagez-vous les avis de vos prédécesseurs?
Oui, monsieur Gilles, moi je dirais ceci. Par rapport au rapport qui a été effectué, qui a été rendu public par notre gouvernement, moi j'estime que ce rapport est venu un peu tard. Puisque le rapport qui a été fait par l'OMI et Human Rights Watch, il y avait quand même des faits avérés. Et effectivement, il y a eu des déficiences sommaires par rapport au rapport de ces deux organismes. Et d'ailleurs, pour l'instant, M. Gilles, pour la série, même ici au niveau de Lubumbashi, les motards qu'on appelle Mansouba Lubumbashi sont exécutés à tout moment. Alors tout cela fait partie de cette exception-là sommaire. Et c'est les gens-là qui les exécutent, ce sont les militaires. On les arrête, et quelques jours après, ils sont relaxés. Là, nous dirons que la police ne fait pas bien son travail, mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte par rapport à ce comportement-là. Pour tout d'abord, le solde qui est très minime, les militaires ne sont pas contrôlés. Il n'y a plus de construction de casernes là où les militaires doivent rester. Dans des cités où nous sommes, il y a des militaires qui sont là avec leurs armes et qui dorment dans leurs maisons. Alors, à ce moment-là, nous disons que ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout, mais c'est hier. Par rapport au rapport qui a été fait par le ministère de l'Intérieur et au rapport aussi effectué par l'ONU et Human Rights Watch, il y a à boire et à manger. Le Human Rights Watch nous a parlé des fosses communes. Effectivement, il n'y a jamais eu des enquêtes par rapport à ça. Mais le rapport qui est venu, moi je cite le rapport, a été rendu en retard 2 ans après. Les faits étaient déjà disparus. Est-ce que par rapport à quoi, par rapport à quel fait, par rapport à quoi que le ministère de l'Intérieur a pu mettre sur pied ce rapport-là?
En fait, aujourd'hui, la question, la difficulté, c'est de trouver à quel niveau. Est-ce au niveau du partage ou de l'échange de l'information entre les différents ONG qui documentent, qui enquêtent, parce que, bon, ils se regardent en chef de faïence avec le gouvernement congolais?
Oui, néanmoins, lorsque le rapport a été rendu public, il y a eu intervention du ministre de l'Intérieur. Il a rejeté tout en bloc. Maintenant, quand nous avons suivi sa déclaration, il a dit qu'avant de rendre public ce rapport, il a fait appel aux ONG. Quels sont les ONG qui pouvaient aller là-bas? Parce qu'ils se regardent en chaîne de faïence. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui la population vit au moins dans une petite équipe, c'est grâce à ces ONG qui sont en train de dénoncer cela. Mais ce jour, moi je vous dis ceci, ici à l'Oumbassi, il y a agression la nuit, pendant le jour, il y a une. Moi j'estime qu'avec la réforme qui a été faite, la réforme n'a pas réussi, il faudrait tout remettre en cause pour qu'il y ait une police républicaine, pour qu'il y ait une police au service de la population, au service de la nation. Sinon, M. J.R.,
ça sera toujours là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Sonville. Alors, M. Robert Ilunga, vous êtes de l'ONG Ami de Nelson Mandela. Vous avez suivi une longue série des auditeurs par rapport à cette thématique. Mais la plus grande question qui se dégage aujourd'hui, quels sont vos rapports à ces jours avec le CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui est déjà opérationnel d'ailleurs. Alors, est-ce que vos rapports sont au beau fixe et comment comptez-vous collaborer pour que finalement ce genre de problème ne se pose pas à l'avenir?
Oui, si vous me permettez, monsieur le journaliste, je crois que les rapports sont bons avec la CNDH, parce que la CNDH, bien qu'elle est mise en place, nous n'avons pas encore vu sortir ses effets. Nous voulons voir la CNDH sur le terrain nous présenter un rapport. Jusque-là, tant que nous n'avons pas encore vu un rapport de la CNDH, on a difficile de la crédibiliser ou bien de l'incriminer. Nous voulons voir les traces. Mais toutefois, nous restons en bon terme avec la CNDH. Même quand vous venez de dire ici que les ONG, les membres du gouvernement se regardent en chien de faïence. Non, non. Nous, on fait un effort pour aller rencontrer les autorités. Comme je vous ai dit au début de l'émission, avant que tout soit dénoncé, je vous ai cité certaines personnes, parmi lesquelles le général Kanyama et M. Nimana, le ministre. Nous les avons dit ce que j'ai dit ici à la radio. C'est pour être un peu éclairé, un bien de volontaire. Il a dit qu'on n'a pas vu la télé. Nous les avons dit ce que j'ai dit. Le fait que je le cite même pour les citer, c'est pour dire que je sais ce de quoi ce que j'ai dit. Et on vient de dire ici qu'il y a absence de preuves. Vous vous souviendrez, dans les émissions de la radio, même à certaines chaînes de télévision, nous avons fait une coalition contre l'opération du COF de 2013-2014. On a assisté les familles des victimes, une des familles des victimes, à 2 reprises. Ils ont déposé une plainte, des 25 familles ont déposé une plainte chez le procureur général de la République actuel. Jusque-là, ici. Ça, nous avons suivi à fosse commune à Maluku. Nous avons soupçonné les membres du gouvernement à voir peut-être, comme on ne connaît pas là où se trouvent les enfants enlevés lors de l'opération du Kofi, peut-être qu'ils pourraient être parmi les gens qui ont été enterrés clandestinement. Alors nous avons fait encore une autre plainte avec les enfants qui ont été enlevés lors des manifestations de janvier 2015 et aussi ceux de l'opération du Kofi. Ça fait 28 plaintes. 28 plaintes qu'on a dit, une plainte signée par 28 familles qui réclamaient les pères. Mais tout ça, ce sont des preuves. Ils ont la liste, ils ont les plaintes au bureau du procureur général de la République, je le suis.
si, mais si, il aura que nous avons déposé des plaintes que nous ne savons pas de suite. Et les Kounouna violent les droits de l'homme. Ça, c'est une précision à donner et je crois que la radio Capi va servir, va aider les auditeurs à comprendre.
Oui.
Les Kounouna ne violent pas les droits de l'homme. Il n'y a que l'État qui peut violer les droits de l'homme. Les Kounouna commet des infractions de droits communs que l'État doit réprimer. Alors, c'est ce que nous avons fustigé au début. Nous, on a travaillé là-dessus pour dire au gouvernement, ne soyez pas passifs, réprimez les bandits. Et la manière dont il l'a fait n'était pas correcte. Même quand un des auditeurs a dit qu'il y a des sortes de Kounouna, il n'y en a pas deux. Nous, dans notre analyse, on trouve qu'il y a trois sortes de Kounouna. Les Kounouna machettes, les Kounouna en tenue et les Kounouna en cravate. Et vous verrez plus que les Kounouna en tenue et les Kounouna en cravate sont sanctionnés difficilement. Ce sont les petits Kounouna là, machettes, les petits voleurs.
Alors, comment voyez-vous l'avenir de cette opération les conflits pour sécuriser la population, dès lors que, en fait, la commande qui était assurée autrefois par l'inspection de la police, notamment avec le général Oléko, aujourd'hui, sanctionné selon les informations, c'est sera assuré par les commissaires de la police, notamment pour la ville de Kinshasa, le général Kanyama.
Bon, je crois que je vous l'ai dit, je crois que cette fois-ci, il trouve que nous avions raison. Si nous avions entendu au début, ça ne pourrait pas arriver à l'étape où nous sommes aujourd'hui. Je crois qu'il a tiré les conséquences de ce qu'aujourd'hui, qui crée des problèmes, il y a certaines relations qui sont parfois envieuses à cause de cette opération-là, qui a été mal menée. Cette fois-ci, l'opération, nous souhaitons que ce soit une opération propre, une opération qui est menée par une police qui n'est pas politisée. C'est un des auditeurs qui vient de le dire ici. Le comble chez nous, c'est le fait que la police est trop manipulée par les politiques. Qu'on sait être manipulé par les politiques, qu'on fasse le travail des policiers. Que la justice aussi fasse un travail comme il se doit. Quand il y a qu'on sait faire l'intimité à punir seulement les opposants et les petits défenseurs des droits de l'homme que nous sommes. On punisse aussi les Kounouna en cravate. Des hausses personnalités.
Voilà, que je sache. Oui, monsieur Robert, que je sache, le Kounouna en cravate, il n'y a pas que ceux de la majorité. Il y a également, bon, en tout cas, c'est qui l'ont, comme vous également, donc même ceux de l'opposition, certainement, de l'opposition.
Nous voulons punir au même moment, de la même façon, avec la même énergie, quand on punit un Kounouna en cravate.
Et le portier citoyen qui tomberait
avec la décharge.
Voilà.
Et de la majorité.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert. On va écouter les derniers auditeurs et puis on reviendra à vous pour la conclusion. Maître Elvis, vous êtes à Kinshasa, André et à Kananga. Bonjour.
Bonjour, hier. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà. Maître Elvis, vous avez suivi vos prédécesseurs. Quel est votre avis?
D'abord, je commencerai par remercier Maître Omar pour sa brillante intervention. Je voudrais dire ceci. Mon intervention s'articule sur un point, celui de la loi. En droit d'hier, je dirais, on ne peut pas commettre des crimes pour en justifier d'autres. Je voudrais dire ceci. Si on élaborait une législation dans ce pays qui autorise à ce qui est fait qu'on se mette à tuer ou à sanctionner avec la peine la plus sévère, tous les Kounouna, les rapports que les jeunes sont en train de faire n'auraient aucun effet, puisque même dans d'autres pays, on le voit, jusqu'à ce jour, la peine de mort est toujours applicable. Il y a toujours ces jeunes qui sont en train de dire, mais aucun effet, puisqu'on continue toujours à appliquer la peine de mort. Par rapport à la loi, si nous étions dans un pays sérieux, par rapport à l'opération qui venait de passer, on n'a pas eu une législation qui a autorisé à la police de tuer, de traquer des Kounouna comme ça et de rendre justice. Ce n'est pas la police de rendre justice. C'est à la justice elle-même de faire un procès et de culpabiliser les auteurs de crimes. Si nous étions dans un pays JR, dans un pays sérieux JR, en principe, le chef de la police et le ministre de l'Intérieur.
Voilà, maître Elvis, je crois que, bon, sous réserve de votre expertise, hein, on condamne à la peine de mort, mais on n'exécute pas, que je sache, en droit quand même, nous sommes dans un droit pénal. On condamne, mais on n'exécute pas.
Sous d'autres sujets, jusqu'en ce moment, on exécute. Il y a des jeunes qui crient fort, mais ils sont exécutés. Hier, je suivais sur TV5, il y a un djihadiste qui en attente de son exécution.
Alors, mais qu'est-ce que dit notre droit, le code pénal? Qu'est-ce que dit le code pénal?
Oui, j'ai dit ceci. Il faut d'abord, par rapport au Koulou, là, il faudrait un procès équitable. Qui est procès? Qui est culpabilité? Donc, on culpabilise et puis on punit. Par rapport au, procès, au phénomène Koulou, il n'y a pas eu procès. Il n'y a pas eu procès. Et la police s'est mise à commettre des malveillances à Dieu. Oui, c'est vrai, ces gens-là tuent, ils tuent. D'accord, je ne suis pas d'accord avec ça. On doit les punir.
Bon, voilà.
Je
crois que le débat du jour n'est pas autour de ces moratoires. Dans notre pays, bon, c'est que les rapports qui est là, il faudrait quand même qu'on rejette un regard par rapport à, comme l'ont dit le prédécesseur. On va écouter quand même André qui nous a rejoint, le tout dernier auditeur. André, vous êtes à Kananga. Bonjour, maître André.
Bonjour, monsieur Gérard. Oui, moi, j'ai ma façon de voir les choses, monsieur Gérard. À suivre l'intervenant, j'ai vraiment essayé, je le respecte tous. Mais le phénomène Koulouna, comme on le dit à Kinshasa, par rapport ici au centre du pays, au Kassai, c'est un phénomène que nous sommes en train de décrier au niveau de la capitale, parce qu'ici, à l'intérieur du pays, particulièrement au Kassai, il n'y en a pas. Et ce qui fait que moi, je résume ce problème au niveau de l'encadrement, parce que, bien sûr, même si l'élaboration des rapports, comme on l'a dit, les rapports de tel et tel, ce sont des papiers qu'on les gens essaient de faire, mais qui restent des papiers morts. Mais le problème se situe au niveau de l'encadrement. Cette classe de gens qui se trouvent à Kinshasa, intitulé Tomba, intitulé Koulouna, il faut résoudre les problèmes. Le problème, c'est quoi que nous pouvons demander au ministère des Affaires sociales? C'est de créer des emplois. Le centre, le pays a des savants qui chôment. Et si on crée des centres d'encadrement de ces gens-là en métier,
ça pourrait résoudre le problème.
Construction, mécanique.
Merci beaucoup, André.
On identifie tout ça.
Voilà, le temps nous fait défaut. On va s'arrêter là. Robert Ilunga, juste ton dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin de cette émission?
Oui.
On est sur
la recommandation. Je dirais tout simplement que les droits et défense des droits de l'homme, à moins que je fasse assez de messages, sont toujours ouverts à collaborer avec tout le monde, les membres du gouvernement, mais pour la promotion de la protection des droits de l'homme. On ne peut pas collaborer pour la protection des droits de l'homme. On collabore pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Et aussi, ce que je demanderais, c'est à la justice, au pouvoir judiciaire de jouer son rôle. Disons, ne plus tolérer l'impunité à n'importe quel échelon. S'il y a impunité, c'est ce qui fait que les gens se comportent de la manière dont nous déplorons aujourd'hui. Et aussi, ce que je vais recommander aux jeunes, et nous avons lancé un programme pour l'encadrement des jeunes, pour la paix, la démocratie et les droits de l'homme. On cherche du fait de la violence.
Voilà, merci beaucoup, Robert Ilunga, de nous dire
à la fin. Je voulais dire la fin même à la fin des H.
Voilà, on n'a plus assez de temps, dommage. Vous êtes des amis de Nelson Mandela. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. On se retrouve demain dans un autre numéro. À très bientôt. Thank you.